Vous écoutez On lit pour vous.
Semaine québécoise des personnes handicapées. Une nouvelle vidéo percutante pour voir au-delà de la différence. Un communiqué de presse de l'Office des personnes handicapées du Québec, publié le 8 mai 2025. Dans le cadre de la nouvelle campagne triennale 2025-2027 de la Semaine québécoise des personnes handicapées, la Semaine, l'Office des personnes handicapées du Québec lance aujourd'hui une campagne publicitaire vidéo audacieuse et mobilisatrice visant à sensibiliser la population à l'importance de reconnaître le potentiel des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société. Elle sera diffusée jusqu'au 7 juin 2025 sur les médias numériques et sociaux. Le concept publicitaire met de l'avant l'idée que le potentiel des personnes handicapées est trop souvent ignoré, surtout lorsque les gens s'attardent trop à leurs différences. Sous le thème « Quand on voit seulement la différence, on perd de vue le potentiel », les déclinaisons publicitaires, vidéos et visuelles, illustrent cette réalité en invitant les Québécoises et les Québécois à voir la personne dans toute sa richesse, au-delà de sa différence. Du 1er au 7 juin 2025, les porte-paroles de la Semaine, Mme Rosalie Taillefer-Simard et M. Lucas Lazy-Legs-Patuelli, inviteront le grand public à s'engager individuellement et collectivement pour reconnaître et valoriser les talents et les aspirations des personnes handicapées. Fait saillant. La Semaine québécoise des personnes handicapées a lieu chaque année du 1er au 7 juin. Il s'agit de la 29e édition en 2025. Les porte-paroles de la Semaine sont Rosalie Taillefer-Simard et Lucas Lazy-Legs-Patuelli. N'hésitez pas à demander une entrevue en vue de la Semaine. L'objectif de la Semaine est de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble de la population québécoise à devenir des acteurs de changement dans leur milieu de vie. Cette mobilisation collective permettra de passer à l'action pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées et pour accroître leur pouvoir d'agir. Une campagne publicitaire est diffusée sur les médias numériques et sociaux jusqu'au 7 juin prochain. L'Office est également l'un des commanditaires du festival « Pas de limites » organisé par l'organisme « Pas d'excuses, pas de limites » du porte-parole de la Semaine, Lucas Patuelli. Un événement qui se déroulera du 5 au 7 juin 2025 à la Maison de la Culture, Hochelaga-Maisonneuve. Les médias peuvent saisir l'occasion, pendant la Semaine, de mettre en valeur les histoires inspirantes et positives de personnes handicapées dans leurs reportages. Ils participent ainsi à l'effort collectif pour rendre la société québécoise plus inclusive. Rappelons qu'au Québec, plus d'un million et demi de personnes ont une incapacité, soit 21% de la population québécoise, âgée de 15 ans et plus, selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2022. Hydro-Québec est fier partenaire de la 29e édition de la Semaine. Pour connaître toutes les nouveautés de la présente édition, consultez la page web de la Semaine québécoise des personnes handicapées à l'adresse suivante ophq.gouv.qc.ca. C'était la Semaine québécoise des personnes handicapées, une nouvelle vidéo percutante pour voir au-delà de la différence, un communiqué de presse de l'Office des personnes handicapées du Québec, publié le 8 mai 2025.
Avoir un médecin de famille grâce à nos lois environnementales. un texte de Mélissa Lem et Nola Poirier paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir. Nous avons besoin de plus de médecins au Canada et les réglementations environnementales pourraient nous aider à les payer. Dans le contexte où une personne sur cinq au pays n'a pas un accès adéquat aux soins primaires, nous devons trouver un moyen de former, d'embaucher et de rémunérer davantage de professionnels de la santé. Un nouveau rapport de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, ACMÉ, intitulé « Santé, prospérité et sens commun », montre qu'en réduisant les maladies et les décès prématurés, les réglementations environnementales permettent de réaliser d'importantes économies dans le domaine de la santé. Ces économies ont deux effets puissants. Elles réduisent le fardeau de la pollution sur le système de santé et libèrent de l'argent qui pourrait être utilisé pour embaucher davantage de médecins et d'infirmières. Pendant que la campagne électorale fédérale bat son plein, Trump et les tarifs douaniers font la une des journaux, mais derrière ces histoires se cachent de profondes inquiétudes quant à l'accès aux soins de santé et à leur accessibilité financière. L'opinion publique canadienne est de plus en plus dominée par ce que le sondeur David Coletto appelle un « état d'esprit de précarité », c'est-à-dire une inquiétude quant à la fiabilité des systèmes essentiels tels que les soins de santé, le logement et les services sociaux. Le rapport « Santé, prospérité et sens commun » illustre comment une politique environnementale forte apporte un bénéfice direct et mesurable à la santé des Canadiens et aux finances de notre système de santé. Grâce à une politique environnementale bien conçue, de nombreuses communautés connaissent moins d'épisodes d'asthme, moins de maladies chroniques, moins de visites à l'hôpital et moins de décès prématurés. Des économies. En examinant les économies réalisées en matière de santé grâce à quatre règlements environnementaux introduits par les gouvernements conservateurs et libéraux au cours des 13 dernières années, le règlement sur l'arrêt progressif de la production de charbon en 2012, le règlement sur le méthane en 2018, le règlement sur l'électricité propre en 2024 et le règlement sur les composés organiques volatiles en 2025, le rapport montre que des mesures ciblées visant à réduire les polluants ont des effets bénéfiques considérables sur la santé, ce qui permet d'économiser de l'argent et de réduire les risques de santé et de mortalité pour des centaines de milliers de personnes. Les données gouvernementales sur les économies en santé qui font partie de l'analyse coût-avantage de chacun de ces règlements ont une portée étroite. Dans la plupart des cas, les économies réalisées sur les coûts en santé ne tiennent pas compte des avantages pour la santé découlant d'autres améliorations environnementales résultant de la réglementation, par exemple l'amélioration de la santé des sols pour l'agriculture. Elles ne tiennent pas non plus compte des avantages considérables pour la santé qui découlent de la réduction de la gravité et du risque des changements climatiques. Pourtant, même en tenant compte de ces omissions, les économies réalisées en matière de soins de santé dans le cadre des quatre règlements s'élèvent à un total de 18 à 21 milliards de dollars. Nous ne pouvons pas reculer. Une estimation sommaire de ce que ces fonds pourraient apporter au système médical montre qu'il s'agit d'une somme suffisante pour embaucher entre 2 200 et 2 500 médecins pendant 36 ans, ce qui signifie que près de la moitié des personnes au Canada qui n'ont pas de médecin pourraient en avoir un, et il ne s'agit là que de l'effet potentiel de quatre règlements. Il s'agit d'un rappel important pour tout le monde au Canada, pour les électeurs qui évaluent leurs options pendant les élections et pour les décideurs politiques qui déterminent les actions les plus judicieuses pour notre santé et nos richesses. Des réglementations telles que les règles nouvellement renforcées pour le méthane, rédigées en 2023, et le plafonnement des émissions de pétrole et de gaz, rédigées en 2024, sont mortes au feuilleton lorsque le Parlement a été dissous pour les élections de 2025. Il incombe au prochain gouvernement, quel qu'il soit, de protéger notre santé en adoptant rapidement des versions ambitieuses de ces politiques. que les coûts soient calculés en vie humaine ou en dollars perdus pour les soins de santé, nous ne pouvons pas reculer. C'était Avoir un médecin de famille grâce à nos lois environnementales, un texte de Mélissa Lem et de Nola Poirier paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir.
La science citoyenne en renfort. Tiques et maladies de Lyme. Un texte d'Ariane Kroll paru le 11 mai 2025 dans La Presse. Comment inciter les utilisateurs des grands parcs des régions urbaines à préserver ces espaces naturels tout en se protégeant contre les tiques? En les impliquant dans un projet de science citoyenne, avancent des chercheurs à la recherche de participants. Les tiques sous surveillance dans les grands parcs. En ce jeudi ensoleillé de mai 2025, promeneurs, coureurs et pique-niqueurs sont nombreux à profiter du parc Michel Chartrand à Longueuil. Les plus curieux s'approchent du stand de Parc en santé. Le projet de recherche étudie la santé autant des écosystèmes des animaux que des usagers qui fréquentent le parc, explique la coordonnatrice Mélanie Dappen-Couture. Les visiteurs essaient de deviner de quel animal provient le morceau de mâchoire placé sur la table et examine les tiques préservées dans le formol. « Ça pique ou ça mord ?» demande un habitué du parc. « Ça a un rostre, donc ça pique. » Mais on n'a plus le droit de répondre aux questions. « Si vous voulez des réponses sur les tiques, vous devez venir à nos ateliers », lance la chercheuse Manon Boiteux avec un sourire en coin. Madame Boiteux cherche 360 adultes désireux de participer à des ateliers dans l'un des 6 parcs du projet. 3 sont des parcs municipaux. Michel Chartrand à Longueuil, Pointe-aux-Prairies et Bois de l'Île Bizarre à Montréal. Les autres sont des parcs nationaux de la CEPAC, proches de centres urbains. Île-de-Boucherville, Mont-Saint-Bruno et Yamaska. À chaque atelier, dit Madame Boiteux, on va emmener les gens se balader dans le parc pendant au moins 30 minutes. C'est super important d'avoir de l'apprentissage expérientiel. On veut que les gens ressentent des choses. Au premier atelier, chaque participant aura à prendre 2 photos dans le parc, d'un élément aimé et d'un aspect qui le préoccupe, pour ensuite échanger avec les chercheurs. Le deuxième atelier portera sur les tiques, les maladies qu'elles transmettent et les gestes à adopter pour s'en protéger. Et le troisième abordera les liens entre la santé humaine et celle des animaux et des écosystèmes. Une seule santé. René Clément, qui a une carte de la CEPAC et qui fréquente régulièrement le parc Michel Chartrand, s'est montré intéressé. On est chanceux d'avoir une nature comme ça en ville. On est isolé en pleine forêt. Il y a toutes sortes d'oiseaux. Je trouve que c'est relaxant dans ce monde où on entend tellement de folie. Madame Boiteux mène cette recherche dans le cadre de son doctorat basé sur l'approche « une seule santé » selon laquelle la santé des humains est intimement liée à celle des animaux et de l'environnement. Elle donne l'exemple de visiteurs qui sortiraient des sentiers pour nourrir des cerfs de Virginie, un comportement d'ailleurs interdit dans les parcs. Pour la santé humaine, quand on sort des sentiers, explique Manon Boiteux, on risque beaucoup plus d'être dans les herbes hautes et d'être en contact avec les tiques. Pour la santé des écosystèmes, on piétine un espace où il y a peut-être de la régénération, on détruit les jeunes pousses. Il y a aussi beaucoup d'enjeux liés à la santé des animaux eux-mêmes. Ça change leur comportement et leur santé nutritionnelle. Des questionnaires administrés avant le début et à la toute fin des ateliers permettront d'en mesurer l'impact sur les participants. Un volet de transfert de connaissances est aussi prévu pour atteindre un public plus large, compte tenu des ateliers qui seraient repris par des organismes, outils pour les camps de jour, balados, etc. La recherche de Madame Boiteux est l'un des volets de Parc en santé, un vaste projet de 2,1 millions de dollars sur 5 ans. Ce projet, qui entame sa 2e année, regroupe une 15aine de chercheurs et de nombreux partenaires de plusieurs domaines, dont la santé publique, l'environnement et la médecine vétérinaire. On veut aussi amener les citoyens à participer aux autres volets du projet de recherche, s'ils le désirent, pour se familiariser avec la démarche scientifique et vraiment bien comprendre ce qu'on fait, ajoute la chercheuse principale et responsable de Parc en santé, la docteure Cécile Henuschein-Schlin, professeure agrégée à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Les citoyens intéressés pourraient par exemple accompagner des chercheurs qui vont mesurer la densité de tiques dans les parcs à l'aide de morceaux de tissu en flanelle auxquels s'accrochent les acariens. Vous écoutez La science citoyenne en renfort, tiques et maladies de Lyme, un texte d'Ariane Kroll, paru le 11 mai 2025 dans La Presse. Comprendre le rôle des serres. Avec les changements climatiques, les tiques à pattes noires, Ixodes scapularis, porteuses de la bactérie qui transmet la maladie de Lyme, se répandent de plus en plus au Québec. Ces tiques peuvent aussi transmettre d'autres maladies comme l'anaplasmose, 40 cas acquis au Québec en 2023, la babésiose et l'encéphalite de Powassan, un cas acquis au Québec pour chacune en 2023. Les cerfs de Virginie, nombreux dans certains grands parcs, y seraient-ils pour quelque chose? La tique à pattes noires n'est pas surnommée tique à chevreuil pour rien, souligne la docteure Cécile Henuschein-Schlin, professeure agrégée à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, U2M. Elle poursuit. La femelle adulte va chercher principalement un cerf de Virginie pour se reproduire. C'est là qu'elle va rencontrer le mâle. Ils vont s'accoupler sur le cerf, puis la femelle tombe au sol où elle va pondre 3000 œufs. Donc, plus il y a de cerfs, plus il y a de rencontres entre des femelles et des mâles, et plus il va y avoir de tiques dans l'environnement. Plusieurs aspects de cette dynamique restent toutefois à éclaircir. C'est ce que tentera de faire le volet « Tiques et agents pathogènes » de Parc en santé, un projet de recherche multidisciplinaire dont la docteure Henuschein-Schlin est responsable. Par exemple, comment la végétation, qui influence les déplacements des cerfs, affecte-t-elle la répartition des risques liés aux tiques dans un parc? Des appâts à rongeurs testés dans une précédente recherche à Bromont, dont la presse avait fait état, sont aussi envisagés pour une nouvelle expérience. Beaucoup de tiques contractent la bactérie responsable de la maladie de Lyme en piquant une souris à pattes blanches ou une souris sylvestre infectée. L'idée est donc d'immuniser les rongeurs avec des appâts contenant un acaricide utilisé en médecine vétérinaire. Quand une tique pique un rongeur ayant gobé ce traitement expérimental, elle meurt. L'expérience de Bromont a donné des résultats encourageants sur les nymphes, stade entre la larve et l'adulte. Dans les zones traitées, la densité des nymphes et la prévalence des nymphes de tiques infectées ont diminué. L'effet était cependant faible, note la docteure Henuschein-Schlin. Donc, affirme-t-elle, si on veut vraiment avoir un impact sur l'abondance de tiques, il faut qu'on cible le cerf, parce que c'est vraiment le facteur de la faune qui va avoir une incidence sur cette abondance dans l'environnement. Les chercheurs envisagent donc de tester leurs appâts à rongeurs en combinaison avec des exclos, des zones clôturées où les cerfs et leurs tiques ne pourraient pas rentrer. Cette expérience, menée dans quelques parcs, permettrait de voir si, à l'intérieur de ces exclos, on peut réduire l'abondance des tiques et la proportion de tiques infectées de façon encore plus importante, explique la docteure Henuschein-Schlin. Si ça fonctionne, ça pourrait être mis en œuvre pour protéger certains endroits dans un parc, par exemple, une aire de pique-nique. Par ailleurs, certains des parcs étudiés, dont le parc Michel Chartrand à Longueuil, ont mené des opérations d'abattage pour réduire la surpopulation de cerfs. L'équipe de la docteure Annie Chanslin a ainsi pu effectuer des prélèvements sur environ 500 carcasses provenant de 4 parcs. Les analyses qui sont effectuées en laboratoire pourraient fournir des informations complémentaires au projet Parc en santé. Cela permettrait notamment de savoir si les cerfs avaient beaucoup de tiques et si ces tiques, ainsi que les cerfs eux-mêmes, étaient porteurs d'agents pathogènes. La pandémie a vraiment remis l'approche « une seule santé » à l'ordre du jour mondial, donc l'importance de revoir nos façons de faire. On ne peut pas gérer une pandémie en regardant seulement ce qui se passe chez les humains et dans notre système de santé. Ça ne marchera pas sur le long terme. C'est la même chose pour l'ensemble des zoonoses, ces maladies qu'on partage avec les animaux, fait valoir la docteure Annie Chanslin. Les premiers résultats de Parc en santé devraient être diffusés dans 3 à 4 ans. C'était la science citoyenne en renfort, Tiques et maladies de Lyme, un texte d'Ariane Kroll, paru le 11 mai 2025 dans La Presse.
Le défi de l'éducation dans un contexte électoral anti-woke. Une chronique de Robert Falcon-Ouellette, paru le 1er avril 2025 dans Espaces autochtones. Alors que la campagne électorale se poursuit, un problème préoccupant émerge. Les informations fausses et trompeuses auxquelles les enfants sont exposés, en particulier en ce qui concerne les peuples autochtones et leur lutte. En temps de polarisation politique, de telles informations erronées peuvent affecter profondément les jeunes esprits, perpétuant des stéréotypes qui sont ancrés dans la société depuis des générations. La Commission de vérité et réconciliation, CVR, du Canada, a formulé des appels à l'action visant à améliorer l'éducation autochtone à tous les niveaux. Cependant, sans une éducation adéquate, les générations futures continueront à faire les mêmes erreurs. Depuis 2015, le Canada a consacré beaucoup d'efforts à la réconciliation, mais avant cela, seules quelques personnes se souciaient vraiment de la question, tandis que la plupart des éducateurs et de la société étaient préoccupés par leurs propres problèmes. Ce changement en faveur de la réconciliation est récent et aujourd'hui, le pendule semble balancer dans la direction opposée, notamment contre ceux que l'on qualifie de « woke ». L'idée d'être éveillé aux luttes des autres, de gagner en connaissance et en compréhension, est désormais critiquée comme si la prise de conscience était erronée. Vision réductrice. Récemment, à Winnipeg, le discours du leader conservateur Pierre Poilievre a illustré comment de telles incompréhensions peuvent se produire lors de campagnes politiques. Poilievre a parlé de réduction d'impôts, de criminalité et de dépenses militaires, mais a également mentionné les peuples autochtones de manière brève. Citation. « Nous investirons dans le traitement et la réadaptation. » Fin de citation, a-t-il déclaré, ajoutant que les jeunes bénéficieraient de services comme le counseling, la désintoxication, la thérapie de groupe et les huttes de sudation. Bien que cela puisse sembler être une proposition réfléchie, cela risque de réduire l'identité autochtone à des pratiques culturelles comme les huttes de sudation. Les peuples autochtones sont des communautés diverses avec des besoins fondamentaux en matière de santé, d'éducation, d'eau potable et de développement économique. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que la référence au centre de guérison passe sous silence des problèmes plus profonds auxquels sont confrontés les peuples autochtones. Les communautés continuent de lutter contre un accès insuffisant à l'éducation, aux soins de santé et à l'égalité économique. Ces défis sont aggravés par la loi sur les Indiens, une loi obsolète et oppressive qui restreint la gouvernance et les droits des peuples autochtones. Une simple référence politique à des pratiques cérémoniales ne devrait pas remplacer des engagements sincères pour réformer ces inégalités. La CVR a mis en évidence l'importance de l'éducation pour démanteler les stéréotypes et promouvoir la réconciliation. Cependant, ce processus est lent, comme le montre la controverse récente à Terre-Neuve-et-Labrador. Le ministère provincial de l'Éducation a ordonné la destruction de 8 600 manuels qui ont été jugés comme véhiculant des représentations inexactes et stéréotypées des peuples autochtones. Les manuels, achetés pour plus de 200 000 $ ont été critiqués en ce sens qu'ils perpétuent des mythes nuisibles, comme l'idée que tous les peuples autochtones partagent la même histoire de la création ou que, citation, « les peuples de l'Est chassent le caribou et ceux de l'Ouest pêchent ». Fin de citation. Les écoles et les gouvernements ont la responsabilité de s'assurer que les élèves reçoivent des informations précises, culturellement sensibles et inclusives sur les peuples autochtones. Malheureusement, cette responsabilité est souvent négligée. Trop souvent, les leaders autochtones sont contraints d'expliquer qui ils sont et ce dont leurs communautés ont besoin. De nombreuses personnes nommées à des postes de pouvoir en affaires autochtones ont eu une exposition limitée aux peuples autochtones. Ce manque de sensibilisation au sein de la direction contribue à la perpétuation des stéréotypes et à la lenteur du changement. Des questions persistent. La destruction de manuels dont le contenu est inexact est une étape nécessaire, mais elle soulève d'importantes questions. Comment ces ressources, remplies de stéréotypes nuisibles, ont-elles été approuvées et utilisées dans les salles de classe? Est-ce que quelqu'un dans le processus d'approbation a consulté les communautés autochtones? Comme l'a souligné le chef de l'opposition provinciale, Jim Dean, le fait que ces ressources aient été approuvées sans une surveillance adéquate est préoccupant. Cette situation met en évidence l'importance cruciale de l'éducation pour façonner l'avenir. Les appels à l'action de la CVR ont demandé que nous enseignions la véritable histoire des peuples autochtones et encouragions la compréhension au-delà des stéréotypes. Les figures politiques comme Poilievre doivent reconnaître que traiter les questions autochtones nécessite plus que des gestes symboliques. Cela exige des engagements pratiques et à long terme en faveur de la justice. La réconciliation commence par l'éducation et il est temps pour nous tous de nous assurer que les générations futures sont dotées de la vérité, de la compassion et de la compréhension nécessaires pour aller de l'avant. Texte en italique. Woke est un mot sale. Le savoir est un mot sale. Brûlez les livres, vous êtes pour ou contre. Dans l'ombre ou la lumière, faites le choix fatal. Fin du texte en italique. C'était « Le défi de l'éducation dans un contexte électoral anti-woke », une chronique de Robert Falcon-Ouellette, parue le 1er avril 2025 dans « Espaces autochtones ».